Bonjour. Au cours de cet été, je vais aborder dans de brèves chroniques dominicales un thème piquant. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Aujourd'hui, pour commencer, je vous parle du politiquement correct. Au départ, quand il apparaît dans les universités américaines des années 70, très influencé par les déconstructeurs français, Derrida, Lacan, Foucault, etc., qui n'ont d'ailleurs que trop bien réussi, le politiquement correct part d'une volonté louable d'éviter tout ce qui peut porter atteinte dans le langage courant à la dignité et à la sensibilité de certains groupes qui sont ou se sentent maltraités. C'est ainsi que le balayeur deviendra un technicien de surface, le sourd un malentendant, etc. Et bien sûr, on pense au très puissant mouvement féministe américain à l'origine. On connaît la longue liste de ces euphémismes ou des corrections de mots qui en découlent. Mais comme ce mouvement est surtout aux États-Unis au départ le fait de minorités ethniques activistes, c'est elles qui vont obtenir que ne l'on dise plus par exemple « nègre », sauf dans « art nègre », mais « noir », c'est-à-dire « black », puis « afro-américain », en attendant l'euphémisme suivant quand même « afro-américain » sera jugé péjoratif. Peut-être dira-t-on « human being ». En France, où cette influence est arrivée une quinzaine d'années plus tard, le courant équivalent voudrait par exemple abolir le mot de « race ». Et question, contre quoi serait alors dirigé l'antiracisme? Ce mouvement croit que l'on peut effacer la chose en gommant le mot. Au bout du compte, en partant de bonnes intentions, on en arrive, et puisque cela vient de campus américain, cela n'est pas un hasard, à un nouveau puritanisme. André Comte-Sponville, le meilleur analyste en France de ce courant, l'a lumineusement montré en soulignant la confusion entre le fait d'opposer le vrai et le faux, et, ce qui est très différent, le bien et le mal. Un peu l'équivalent des feuilles de vigne sur le sexe des statues de l'ère victorienne, ou plus récemment de statues voilées pour la visite de dignitaires iraniens en Italie, par exemple. C'est la moderne police du langage, brigade de la vertu, qui se croit chargée d'une vigilance sémantique pour traquer les dérives ou les dérapages selon ses critères. Albert Camus, je sais qu'on pense qu'on le cite beaucoup, parfois trop, mais vous m'excuserez de le faire, car je lui voue une passion depuis l'âge de 13 ans, avait tellement raison quand il disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. On y est en plein. Donc de bonnes intentions et à l'arrivée, un monde orwellien. J'ajoute que ce dont nous parlons concerne les Occidentaux, et donc en premier lieu les langues anglaises et françaises. On ne sache pas que cela préoccupe les locuteurs des langues chinoises, arabes ou russes. Donc finalement, c'est devenu un des aspects de l'offensive interne multiforme contre la civilisation occidentale et son héritage. Mais là aussi, l'équilibre a été perdu. Bien sûr, on peut souhaiter que la civilisation à laquelle on appartient se corrige, s'améliore, se réforme, arrive à réduire ses propres dérapages ou excès, sans vouloir pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc se soumettre à une sorte de tyrannie, y compris linguistique, de groupes activistes. On a pu dire que la seule minorité dont les droits légitimes ne seraient plus défendus serait la majorité. D'accord donc pour ne pas blesser inutilement les uns ou les autres, pas pour qu'on ne puisse plus mettre un nom sur les réalités et qu'une obligation de parler une langue approximative et brumeuse finisse par nous couper de tout, somnambules, déboussolés. C'est le cas à propos, par exemple, de l'islam et tout ce qui concerne l'islam, j'en parlerai dans une autre chronique. Conclusion. Il faut retrouver la raison politique et sémantique.